Aujourd'hui, c'est le 10 novembre 2005. Nous sommes à Paris, à 15 rue Jean-Jacques Rousseau. Je suis Ole Terkelsen. Je vais faire une conférence. Le sommeil, les rêves et la mort. Nous sommes dans une association, USFIPES, qui sont des amis de Alan Kardec. Bonjour. Je m'appelle Ole Terkelsen. Je suis du Copenhague, Danemark. J'ai appris le français au lycée au Danemark et j'ai aussi fait des études à l'Alliance française à Paris, sur le boulevard Raspail. Je veux parler sur le thème le sommeil, les rêves et la mort, selon le philosophe danois Martinus. C'est un initié. Il a expliqué, quand il avait 30 ans, il a eu une révélation spirituelle. Il dit qu'il a eu une conscience cosmique, qu'il a vécu la grande naissance. Et il a une don d'intuition très développée. Il dit, avec son intuition, il a eu accès à l'océan de connaissances. Ça veut dire qu'il a construit une image du monde éternel et il n'a pas inventé cette image, cette cosmologie. On parle de la cosmologie de Martinus. Il a vécu, il a eu un don de vivre les principes de du monde, les lois. C'est quelque chose qu'il a vécu passer un sens extraordinaire. Et il y a un petit livre ici où il a décrit son expérience de la naissance de ma mission. Il a décrit comment il a eu cette révélation, comment ça s'est passé. Et après 7 années, il a eu en vue d'ensemble sur tout l'univers. Il a commencé d'écrire ses livres. Il était né en 1890. Il a vécu 90 ans et ça veut dire qu'en 1981, il est décédé. Et 60 ans, il a écrit et écrit et écrit. Je crois qu'en tout, il a écrit 8000 pages. Dans la chimie, toutes les sciences ont un thème. Le thème de la biologie, c'est la biologie. Mais le thème de Martinus, c'est tout ce qui existe, c'est tout l'univers, l'univers vivant. Et il a décrit presque tous les thèmes dans la vie. Et aujourd'hui, je voudrais bien parler sur le sommeil, les rêves et la mort, parce que c'est normal qu'on s'occupe à ce thème ici, dans la salle psychique. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on doit dormir? Et en fait, c'était un mystère pour les scientifiques longtemps, parce que le cœur doit battre, les poumons doivent travailler, la foie, les reins, tous les organes aussi doivent travailler pendant le sommeil, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on doit dormir? Mais Martinus, il était certes, on doit dormir parce que le système nerveux a besoin d'une régénération. On doit réparer le système nerveux. C'est le cerveau et le système nerveux. Si on a un chemin de fer ou une autoroute et on veut réparer cette autoroute, le chemin de fer, comment faire? Il faut arrêter la circulation pendant le travail, n'est-ce pas? Et il y a toujours une circulation dans le système nerveux quand on est conscient. Si on, chaque fois qu'on a eu une expérience avec les 5 sens, il y a toujours un courant dans le système nerveux. Si je veux me manifester, si je veux agir, il y a de nouveau un message de le cerveau à les organes. Ça veut dire, tout le temps pendant le jour, il y a un trafic, une circulation dans le système nerveux. Mais pour réparer le système nerveux, il faut arrêter la circulation. Il faut arrêter l'électricité dans le système nerveux. Et ça veut dire qu'il se, il y a un transfert de la conscience d'une de la plan physique dans la plan psychique. Il y a plusieurs exemples. Ça se passe quand on se endormit, n'est-ce pas, et quand on meurt. C'est deux exemples où la conscience d'une est transmise dans le plan psychique. Mais il y a aussi, si on a un accident, ça peut être tellement douloureux qu'on s'évanouit. C'est aussi, on est libéré des douleurs parce qu'on s'évanouit. Et aussi dans l'hôpital, s'il y a une opération, on a de l'anesthésie. Et c'est aussi une méthode, c'est aussi un transfert de la conscience diurne dans le plan spirituel. Et il y a d'autres exemples. Par exemple, si on a un médium, on a beaucoup écrit au Danemark sur Edgar Cayce aux États-Unis, parce que c'était le prophète dormant, parce qu'il il se couche et il parle, mais il ne sait pas lui-même ce qu'il a dit, mais on l'a enregistré. Ça veut dire sa conscience diurne n'était pas sur le plan physique pendant cet enregistrement. Il y a aussi quelque chose avec l'hypnose. Si une personne est hypnotisée, il n'est pas tout à fait conscient sur le plan physique. Martinus a aussi écrit un article qui s'appelle « Les ports de la mort ». Et ça a un sous-titre, et le sous-titre, c'est ce que le sommeil est le petit frère de la mort. Le sommeil est le petit frère de la mort. Ça veut dire que le sommeil et les rêves se rassemblent beaucoup. Parce qu'on est dans le même monde, on est dans le monde spirituel. Mais naturellement, il y a une grande différence. Parce qu'après le sommeil, on retourne à le même corps. Mais après la mort, on retourne dans un corps nouveau. C'est une grande différence, mais quand même, il y a beaucoup de similarités. Et l'idée, c'est le même, c'est d'avoir une vacance. Si on a travaillé un an, c'est bien avec une vacance d'été. C'est bien pour les enfants à l'école. On a beaucoup appris pendant l'année et après, il faut avoir une vacance. Et on a aussi aujourd'hui beaucoup de trucs électroniques avec des batteries. Il faut recharger les batteries. Mais c'est le même avec l'homme. L'homme a aussi des batteries. On a une force de vivre. Et ça veut dire que cette batterie des forces de vivre doit aussi être recherchée. Et pendant le sommeil, les batteries de force de vivre sont recherchées. Et c'est aussi l'idée avec la mort. Les vieux gens, ils sont tellement fatigués, n'est-ce pas? Mais quand on est né comme un enfant, on a beaucoup, beaucoup de l'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'on a été dans le monde spirituel où on a reçu beaucoup d'énergie et d'envie de vivre, force de vivre, courage de vivre. Et c'est le même, le sommeil et la mort, c'est une vacance où on est recherché. Et c'est très important. On a fait des expériments assez cruels sur les animaux, parce que si un animal s'est endormi, on l'a réveillé. Et si on ne permet pas, par exemple, à un chat de dormir pendant une semaine, cet chat va mourir. Et je crois que vous connaissez peut-être de vos propres expériences ou de l'autre, c'est très important de pouvoir dormir. S'il y a une personne qui ne peut pas dormir ou seulement dormir 2-3 heures par nuit, on est détruit, on est très nerveux, on perd la force et on peut avoir un collapse nerveux, on peut être totalement détruit parce qu'on n'a pas eu le sommeil. C'est vraiment très important d'avoir un sommeil normal. Et c'est très détruante si on n'a pas assez de sommeil. C'est très important. Et Martinus a aussi écrit un peu sur les rêves. Il y a Il a écrit plusieurs petits livres. Ici, c'est un livre qui s'appelle « Le destin de l'humanité » et c'est une vue d'ensemble sur la cosmologie. Et dans ce petit livre, il a seulement écrit un peu sur les rêves. Et il dit « Il peut arriver pourtant dans des cas où le transfert de la conscience diurne dans le plan spirituel ne se fait pas parfaitement et où un être se trouve par conséquent dans une sorte de stade intermédiaire entre l'existence physique et l'existence spirituelle. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il a de la fièvre, qu'il est malade, sous l'influence de stupéfiants, etc., que des souvenirs du monde spirituel viennent se fondre avec ceux du monde physique et qu'ils pénètrent ainsi dans la conscience diurne physique de cet être. Cette fusion des souvenirs spirituels et physiques est appelée communément rêve. Les rêves sont donc, en raison de leur apparition anormale et incontrôlée, contestable. Le mieux, c'est en fait si on dort et ne se réveille pas et qu'on ne peut rien souvenir. C'est mieux qu'on n'a pas du tout des rêves, on ne peut rien souvenir parce que ça signifie qu'on a été dans le monde spirituel, qu'on a vraiment eu une vacance. Comme les rêves sont un bastard, un mélange entre le monde physique et le monde spirituel. Mais, il souligne, il y a, comment dire, des rêves où on a de matière pure spirituelle. Ça veut dire qu'on peut avoir des messages ou on peut vivre quelque chose qui va se passer dans l'avenir. Ça peut être une femme aux États-Unis qui a un fils au Vietnam. Il est en danger de mourir. Et elle a eu une vision. Et ça montre que c'était vrai. C'est un peu extraordinaire, mais dans ce cas, elle a pris du matériau du monde spirituel et peut se souvenir sur le plan physique. Comme ça, il y a des rêves purs avec des messages du monde spirituel. Mais normalement, c'est un mélange, c'est un bastard entre les deux mondes. Mais quand même, on peut faire une science sur les rêves. Et tout le monde a entendu parler de Carl Gustav Jung et Freud. Il a commencé de faire une science sur les rêves. Mais aussi les Égyptiens, c'était le Joseph dans le Testament ancien. Il était chez le Pharaon, il était en rêve avec cette vache grasse et cette vache maigre. Oui, et ça montre seulement à ce temps-là, on a travaillé avec les rêves pour comprendre de ce qu'il s'agit. Ça veut dire, Martinus pense, oui, c'est vrai, on peut faire une science des rêves, mais normalement, il pense, c'est pas nécessaire de s'intéresser à les rêves. C'est pas nécessaire. Et c'est pas nécessaire d'écrire ce qu'on a. C'est naturel que les hommes veulent savoir quelque chose sur soi-même. Si on veut travailler avec soi-même, si on est dans une évolution personnelle, on veut s'améliorer, on veut travailler avec soi-même. Et c'est bien de savoir si on a des fautes, des côtés faibles et évoluer. Et comme ça peut être une aide de savoir tu as un problème là et un problème là. On peut aussi faire un horoscope et demander à un astrologue. Il peut aussi dire il y a des choses ici et ici pour travailler. Ou ça peut être un voyant, un médium qui peut dire c'est bien pour toi de travailler avec cette côté dans ta conscience. Mais normalement, dans les rêves, quand on veut savoir qui signifie les rêves, on dit toujours, tous les rêves, c'est ton univers. Toutes les choses dans son rêve, c'est un miroir de la personne qui a eu cette rêve. Ça veut dire, s'il y a un chien agressif dans le rêve. Ça veut dire que cette personne a soi-même un côté agressif. Mais peut-être il a aussi un vieil tendre qui est très gentil. Et ça veut dire que cette personne a aussi ce côté. Et c'est très intéressant, tous les personnages, tout l'univers dans les rêves est un miroir de soi-même. C'est une pensée assez intéressante. Mais ce qui est peut-être plus intéressant avec toute la cosmologie de Martinus, c'est le même que le monde extérieur est un miroir de la personne même. Vous avez entendu parler de la loi du karma. Ça veut dire que toutes les énergies qu'on a envoyées vont retourner. Tout ce que j'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai envoyé moi-même. Ça veut dire que toutes mes expériences, c'est un miroir de moi-même. Et d'autres Martinus, ils parlent de le fait que tout l'univers est un être vivant. Et tous les êtres vivants sont des cellules dans le corps de Dieu. Il parle d'un principe d'unité des vies. Ça veut dire, je suis un être vivant. Mes organes sont des êtres vivants. Les cellules sont des êtres vivants. Les atomes, les molécules, atomes, électrons, eux aussi sont des êtres vivants. La Terre est un être vivant. Le système solaire est un être vivant. La galaxie est un être vivant. C'est continu dans l'infini, dans le microcosme et dans le macrocosme. Et si on prend le somme de tout, on a un seul être, c'est l'univers vivant. Et c'est ce que Martinus appelle Dieu. Il y a souvent des gens qui me demandent après la conférence, est-ce que vous êtes croyant, est-ce que vous croyez en Dieu? Et si je dis oui, je crois en Dieu, il tourne, il ne veut pas parler avec un religieux. S'il me demande si je crois en Dieu, je demande qu'est-ce que tu comprends de Dieu? Et après, je veux te répondre. Si tu peux me dire qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Après, je veux répondre. Parce qu'il y a beaucoup des conceptions de Dieu. Et selon Martinus, Dieu est tout simple, tout ce qui existe, physiquement et spirituellement. Et ça veut dire, toute l'expérience de vie est une conversation avec Dieu. Parce que toutes les expériences, c'est une conversation avec l'entourage, avec l'ambiance. Et comme ça, il y a une ressemblance entre le monde physique extérieur et les rêves. Tous les deux sont un miroir de moi-même. Mais j'ai ma conscience diurne sur le plan physique. Ça veut dire que je peux vivre toutes les choses très consciemment sur le plan physique. Mais si c'est une vision, si dans un rêve, un hypnotique, régression, c'est un peu nébuleux. On peut prendre un peu de matériaux de la sous-conscience, mais c'est un peu compliqué. Si une petite analogie, si on est dans l'école et il y a un enseignement dans ma chambre de classe, il y a aussi un enseignement dans la classe voisine. Mais si je veux apprendre quelque chose, il faut suivre l'enseignement dans mon chambre, n'est-ce pas? Et pas la chambre à côté. Et c'est ce que Martinus toujours souligne. Si on veut apprendre quelque chose sur soi-même, c'est très important de comprendre que ma chambre, dans la classe de l'école, c'est le monde physique et pas le monde spirituel. C'est possible de prendre des informations du monde spirituel, mais c'est pas nécessaire quand on est devenu conscient qu'on peut apprendre dans le monde physique. Ça veut dire, s'il y a un homme qui est très agressif et très en colère avec moi, et je réagis aussi, et normalement, on comprend que les autres sont la cause. Cet homme très agressif, ça n'a rien de faire avec moi. Dans la psychologie, on parle souvent des projections. Ça veut dire, s'il y a un homme très autoritaire, et je rencontre cet homme autoritaire et je m'en fâche. Je ne peux pas tolérer les gens autoritaires. Pourquoi? Parce que je le suis moi-même, autoritaire. Mais je ne veux pas admettre. J'ai un problème, mais je ne veux le pas admettre. Mais au lieu, je peux voir la faute chez les autres. Je me mets en colère avec les autres. C'est pas dans seulement dans la cosmologie de Martinus, c'est très connu dans la psychologie. Mais quand même, c'est un peu dur, mais l'idée est, on est la cause soi-même de tous ces problèmes dans la vie. Il n'y a aucune exception. On est même la cause. Et c'est selon la loi du karma. Mais c'est très dur, parce que si on a des très grands problèmes, on veut penser, ce sont mon fils qui est la cause de ma problème. C'est mon époux qui est la cause de ma problème. Ce sont mes collègues, c'est mon chef qui est le problème. Non, c'est un message que j'ai envoyé moi-même et maintenant ce message va retourner. Comme ça, on peut dire, c'est pas tellement important de se concentrer sur les rêves. C'est mieux de se concentrer sur la réalité. Mais le principe, c'est le même. Toutes les choses dans la vraie, c'est un miroir de moi. Toutes les choses dans le monde extérieur, c'est aussi un miroir de moi. Mais Martinus, il parle du langage direct de la vie. La vie parle à nous. Il n'y a pas des choses qui se passent par hasard. Toutes les choses qu'un homme peut vivre dans la vie, il y a un sens. C'est un message. Il y a un message dans toutes les choses qu'on peut vivre dans la vie. Et il dit que c'est la Providence, c'est Dieu, c'est l'univers vivant ou plus neutre, c'est la vie qui parle à nous. Mais c'est très important de commencer de voir la vie comme ça. C'est toujours la vie qui parle à nous. Pourquoi? La loi de karma, il ne s'agit pas de punissement, c'est un enseignement. Et le but du monde physique, c'est de devenir un homme parfait, un homme achevé. Il y a une évolution dans le règne végétal, le règne animal, et l'homme appartient à le règne animal encore, n'est-ce pas? Mais on se développe vers la perfection. Martinus parle des êtres comme Christ, ou des êtres comme Dieu. C'est un homme parfait qui pratique l'amour du prochain. Et quand on est un être parfait, on va avoir une conscience cosmique. Et on peut dire comme le Christ, moi et Dieu, nous sommes un. On a une conscience cosmique, ça veut dire on a une conscience du tout le cosmos. On a accès à la conscience de Dieu. C'est la perfection. Et c'est le but du monde physique. Nous sommes demi-animal, demi-l'homme véritable. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Et je ne crois pas que je veux dire plus sur les rêves, mais je veux continuer avec la mort. C'est une vacance. Et Martinus a décrit ce qu'on peut vivre dans les mondes spirituels. Et j'ai aussi porté une brochure générale sur la cosmologie de Martinus. Et dans cette brochure, il y a un article qui s'appelle « Les ports de la mort ». Et ici, Martinus a décrit comment on est reçu dans le monde spirituel. Si on est enfant, si on est jeune, si on est vieux, si on est égoïste, si on est spiritualiste, il a décrit des diverses situations, comment on est reçu dans le monde spirituel. Mais il a aussi décrit ce qu'on peut vivre dans les mondes différents dans le plan spirituel. Quand on meurt, ce qui se passe, c'est ce que le corps ne fonctionne plus. Nous avons 5 sens. Mais pour voir dans le monde physique, c'est nécessaire avec les yeux. Pour écouter, c'est nécessaire avec les oreilles. Si les yeux et les oreilles ne fonctionnent pas, on ne peut rien voir, on ne peut rien entendre. Ça veut dire, on ne peut rien vivre dans le monde physique. Mais on a toujours les mêmes pensées. Pour beaucoup des athées et matérialistes, la mort est une grande surprise. Parce que le premier qu'on va apprendre après la mort, c'est qu'on vit. On a exactement les mêmes pensées après la mort qu'avant. Je crois que vous avez entendu parler des histoires. Par exemple, s'il y a des soldats qui sont tués pendant la mort en attaquant. Il y a des voyants qui ont vu comment il a attaqué, il était tué, et le corps se couche par terre, mais il continue l'attaque sur le plan spirituel. Il n'est pas conscient qu'il est mort. Et c'est très intéressant parce que on ne peut pas mourir, mais le corps peut cesser de fonctionner. Mais la conscience, c'est toujours la même. Il faut comprendre, je ne suis pas identique avec mon corps. Mon corps est un outil, presque comme en bicyclette ou en auto. Ou en fait, on peut dire que l'auto et la bicyclette est presque un organe dans ma vie. Parce que c'est un outil pour moi, et le corps physique, c'est aussi un outil. Ça veut dire que avant la mort, les pensées étaient un monde intérieur. Après la mort, les pensées sont le monde extérieur. Ça veut dire que je vis dans un monde, le monde extérieur, ce sont mes pensées. Et c'est très malheureux si on s'est suicidé. Parce que naturellement, on a eu des pensées très négatives, on était très déprimé, on ne peut pas soulever le problème et on a choisi de se tuer. Mais ce n'est pas la solution. Et après, on est dans les mêmes pensées. Mais il y a un avantage dans le monde physique parce que, par exemple, il y a des fleurs dans le monde physique. Ça peut donner de la lumière dans la mentalité d'un homme déprimé. Le soleil brille, il y a des champs qui sourient, des champs gentils. Ça veut dire qu'il y a des possibilités pour avoir de la lumière dans la mentalité d'un déprimé. Mais ce n'est pas possible sur le plan spirituel. Il y a des anges gardiens qui veulent aider, mais ils ne veulent pas. Il a décidé qu'il veut mourir et c'est fini, pas plus. Et ça veut dire que les anges gardiens ont offert d'aider, mais il ne veut pas avoir l'aide. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de force dans le monde spirituel. On a la droite. Qu'est-ce qu'on dit en français? Fiche-moi la paix. Et je crois qu'il y a des êtres qui sont morts. Fiche-moi la paix. Il ne veut pas être dérangé. Et ça peut s'arranger comme ça, mais ça veut dire qu'il doit vivre dans un monde qui est identique avec leurs propres idées. Ça veut dire qu'il vit dans un monde ténèbre, gris, noir, et c'est très désagréable. Quand j'étais enfant, c'était comme ça, si on a eu un comportement mauvais, on a eu une punition, il faut se mettre dans le coin et réfléchir de ce que j'ai fait. Mais en fait, c'est, dans un sens, c'est bien parce qu'on est laissé à ses propres pensées. Souvent, on a beaucoup de choses à faire. On est stressé, on est pressé, on veut se battre avec les autres. Mais de temps en temps, c'est bien d'avoir la chance de réfléchir en paix. On peut le faire dans cet coin. Mais après la mort, on a aussi une possibilité de réfléchir un peu. Et ça veut dire qu'un être malheureux peut rester dans ce monde. Je ne sais pas, Martinus n'a pas dit combien de temps, mais peut-être vous savez bien ici avec les voyants, les médiums, mais peut-être c'est une idée qu'on peut rester dans un état comme ça pendant 2 ans ou 2 années ou 5 années ou 10 années. Je ne sais pas, mais environ. Martinus a expliqué qu'on peut maximalement rester dans le monde spirituel 100 ans. C'est absolu le maximum. Il y a un rythme dans la réincarnation. Il y a aussi un rythme avec le sommeil. Normalement, les gens vont dormir 8 heures et être en activité 16 heures. Ça peut être des variations, mais c'est bien d'avoir un certain rythme. Et le rythme normal, c'est ce qu'on a le même temps sur le plan physique comme au plan spirituel. Ça veut dire si on est décédé avec 80 ans, on peut avoir une vacance 80 ans. Mais si on est tué comme un soldat, avec 18 ans, on a envie de vivre la vie. On a appétit sur la vie. On n'est pas fatigué. Ça veut dire, un jeune homme comme ça ne peut pas rester 18 ans sur le plan spirituel. C'est trop long. C'est pas nécessaire de se reposer. C'est pas nécessaire avec tellement beaucoup de temps pour recharger les batteries. Une telle personne peut revenir peut-être après 5 ans. Mais selon Martinus, c'est tout à fait impossible si on mort avec 80 ans qu'on peut revenir la même année. Pas du tout. Il y a un rythme naturel. Mais naturellement, il y a beaucoup de variations. Je veux revenir à ce thème. Mais normalement, c'est le même temps sur le plan physique comme au plan spirituel. Et il y a, au commencement, il y a une zone intermédiaire. Ça veut dire, on est en fait dans le monde spirituel. Mais tous les pensées s'agit des choses sur la terre. Ça veut dire, tous les pensées sont terrestres. Mais on est dans le monde spirituel. Ça veut dire, on n'est pas encore entré dans le monde spirituel réel. Comme si on est touriste, on peut voyager en autre pays, on peut vivre des choses tout à fait nouvelles. On n'était jamais avant dans ce monde. Il y a beaucoup de choses intéressantes à vivre. Mais au commencement, dans cette zone intermédiaire, toutes les pensées sont liées à la terre. Et comme ça, on n'est pas encore vraiment mort. On est entre les deux mondes. En fait, on est dans le monde spirituel, mais la conscience est sur la terre. Et au commencement, c'est cette zone de la purgatoire. On a parlé de ça dans l'Église catholique beaucoup. Mais il y a une réalité là-dedans. Et la zone purgatoire, c'est le résultat, l'effet de ses propres pensées négatives. Ça veut dire, on a la chance de vraiment vivre la conséquence de ses propres pensées négatives. C'est comme enfant, on peut réfléchir dans le coin. C'est presque le même. Après la mort, on peut réfléchir un peu. Parce que tout ce qu'on peut vivre, ce sont les propres pensées. Et comme les pensées sont négatives, c'est vraiment un monde gris et noir. Mais il faut rester dans cet état jusqu'à la fin. On dit, je ne veux le plus, je veux la lumière, je veux être normal, j'ai envie de vivre la vie, j'ai envie des choses. Et après ça, on s'ouvre pour les anges, les gardiens, l'ange gardien. Et on peut être aidé. Ce qu'on peut dire, on peut recommander quand on meurt de prier pour avoir de l'aide. Et on est aidé subitement. Et si on sait qu'il y a des anges gardiens, ce n'est pas nécessaire d'avoir peur pour mourir. Parce qu'il faut toujours appeler les anges gardiens et ils sont là. Martinus a aussi décrit comment, si on est très maté, était très égoïste. C'est aussi un problème d'entrer dans le monde spirituel, parce que le monde spirituel, c'est un monde de l'amour, c'est un monde de la lumière. Mais si la conscience propre est un peu noire ou grise, on est très égoïste, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne peut pas directement entrer dans ce monde. Il pourrait être des périodes d'hiver qui n'est pas tellement agréable dans la prévie. Mais après cette zone purgatoire, il y a aussi une zone de paradis. Et ça veut dire que c'est un paradis avec les choses physiques. S'il s'agit, les animaux aussi ont un paradis. Et quand les animaux sont dans le monde spirituel, je crois leur paradis, c'est un monde avec beaucoup, beaucoup de nourriture, par exemple. On dit aussi que les Indiens sont sur le champ des chasses éternelles, n'est-ce pas? Ou quelque chose comme ça. Si les hommes sont des chasseurs, leur paradis est un monde avec beaucoup d'animaux pour chasser. Mais ce n'est pas le monde spirituel réel. C'est le paradis dans leur pensée, Mais c'est merveilleux. Ça peut être un couple à Paris. Il a toujours voulu avoir une petite maison dans la campagne, mais il n'a pas eu l'occasion. Mais quand ils sont morts, il a la possibilité. Et il voulait avoir une maison telle et telle, et avec fleurs et toutes les choses comme ça. Et quand il pense à la maison est là. Le monde spirituel fonctionne dans cette manière. Si on a une pensée, les choses se matérialisent, parce que le monde de pensée est extérieur. Martinus a dit un peu amusement que si ce couple ne pense pas à la maison, la maison va disparaître. Mais chaque fois, quand il pense à la maison est là. Ça veut dire qu'il ne découvre jamais que la maison va disparaître. Parce que chaque fois, quand il pense à la maison est là. Si on pense à autre chose, l'autre va disparaître et le nouveau va apparaître. Et comme ça, on peut avoir un paradis. Il y a, je crois qu'on dit qu'il y a milliers de logements dans la maison de Dieu. Et c'est une expression du Bible. Il y a beaucoup, beaucoup de logements, des appartements dans la maison de Dieu. Et Martinus use souvent cette il y a un paradis pour tous les gens. Et au Danemark, on a eu mythologie nordique. Il a eu une paradis, le Valhall. Et c'est pour tuer et manger et boire et faire grand fête. C'était leur paradis. Les islamistes ont leur paradis, les chrétiens ont leur, les bouddhistes, les diverses sectes, tous les hommes ont leur paradis. Et c'est son logement dans la maison de Dieu. Et c'était très bien. Mais après un certain temps, c'est fini avec le contact avec le plan physique. Et après cette zone intermédiaire, on peut rentrer dans les mondes spirituels, réels. Et Martinus a décrit que dans l'univers, il y a 6 plans d'existence. Et il y a un monde physique, il y a un monde spirituel. Et au commencement, dans le monde physique, on trouve les minéraux. Ça veut dire, ce sont des êtres vivants du monde spirituel qui a un désir de vivre la vie dans le monde physique. Et c'est la première chose à faire, avoir un certain contact avec le matériau physique. Et après, c'est les plantes, les végétales. On a commencé de vivre un peu dans le monde physique. Et les animaux, avec la couleur rouge, c'est le règne végétal. Avec la couleur orange, c'est le règne animal. Et c'est le terre, la terre. Et l'homme de terre appartient toujours au règne d'un animal. Ici, il y a une étoile et ça va symboliser 7 points dans l'évolution où on a la grande révélation, où on est initié, où on va avoir la conscience cosmique et on rentre dans le règne d'homme, dans le règne d'homme achevé, l'homme parfait. Le Christ a dit « Mon règne n'est pas de ce monde-ci ». C'est un autre monde. Et dans ce monde, il n'y a pas de l'égoïsme. C'est seulement l'amour du prochain. C'est le règne de l'homme véritable. Avec la couleur vert, Martinus a décrit le règne de sagesse. C'est le plus haut intelligence ou intellectualité dans le monde physique. Tous les corps des hommes, des animaux, les plantes, toute la nature, toute la construction de la nature est dessinée des êtres spirituels dans le règne de la sagesse. Mais il y a des matérialistes qui pensent que le corps humain est un résultat par des choses qui s'est passées hasardement. Au commencement, il y avait le Big Bang, et après, il y avait des atomes de hydrogène et hélium. Et il s'est réagi par hasard. Et tous les hasards sont continués et continués et continués. Et whoopty, à la fin, il y a un homme avec une conscience, avec les yeux et des choses comme ça. Il y a beaucoup qui croient que c'est se créer par soi-même. Mais dans le monde des hommes, il n'y a rien qui se peut créer par soi-même. Il y a toujours un créateur. Il y a aussi un créateur dans cette règne de sagesse. Et après, il y a en règne, il dit que c'est le monde divin, c'est le plus haut. Dans le règne de sagesse, c'est une culmination de l'intelligence. Et dans le monde divin, c'est la culmination de l'Esprit de Dieu, c'est la culmination de l'intuition. Et on peut vivre beaucoup de choses différentes. Et à la fin, on rentre dans le règne de béatitude, le règne de félicité. Mais peut-être est-ce que je peux revenir à ce règne. Mais le premier règne, c'est le couleur jaune, ça symbolise le sentiment, c'est l'amour du prochain, c'est en culminant. Et on veut aider. Martinus parle d'un principe du rédemption du monde. Le Bouddha, le Christ, Mohammed, étaient des rédempteurs du monde. Il veut aider les plus jeunes frères dans l'évolution de se développer. Et en fait, c'est le même principe comme avec les anges gardiens. Parce qu'ils étaient des anges gardiens physiques. Mais normalement, on est un ange gardien spirituel. Et on peut travailler comme un ange gardien après la mort. Si, sur le plan terrestre, on a aimé un homme beaucoup, on peut, après la mort, devenir ange gardien. Après, normalement, c'est un mère qui s'est beaucoup occupée avec sa fille, la fille a beaucoup de problèmes, elle ne peut pas se débrouiller seule, et après, la mère est décédée trop tôt, mais après, elle peut aider la fille comme ange gardien. Et c'est ce qu'on peut. Normalement, les êtres spirituels ne peuvent pas voir le monde physique. Mais il y a, nous avons un corps physique, mais il y a une copie astrale. Il y a un corps astral qui est une copie du corps physique. Et les êtres spirituels, ils peuvent voir le corps astral. Et comme ça, il peut sentir si on a des problèmes, si on est en pleine forme, si on a des problèmes, il peut se vivre. Mais il y a des exceptions. Il y a des êtres vivants sur le plan spirituel qui sont clairvoyants et peuvent voir dans le monde physique, comme il y a aussi des hommes clairvoyants dans le monde physique qui peuvent voir dans le monde spirituel. Mais ce sont des exceptions. Et ce qui est important, c'est de prier à Dieu ou à les anges gardiens pour aider. Et il est un truc, ces anges gardiens, parce que la vie après la mort doit être un paradis. On ne peut pas avoir des ennemis au paradis. S'il y a des ennemis au paradis, ce n'est pas un paradis. Et le lion et le mouton doivent être ensemble. Ça veut dire que tous les côtés animal, tous les côtés égoïstes doivent être déactivés. Ou une sorte d'anesthésie, ou une sorte d'hypnose. Je ne peux pas expliquer comment le mécanisme se pratique, mais les faits, c'est ce qu'on peut. Les anges gardiens peuvent déactiver toutes les choses égoïstes. Et il attend, il dort pendant la vacance d'été. C'est presque le même si on a beaucoup de travail, beaucoup de problèmes. Il faut mettre les problèmes à côté et jouir la vacance. Et c'est ce qui est possible dans le monde, de mettre tous les problèmes à côté et vraiment vivre la vie dans le monde spirituel. Dans ce règne, qui c'est la culmination de l'amour, le règne d'homme, si on a beaucoup d'amour en soi-même, on peut beaucoup vivre dans ce monde. Si on est un homme très brutal, on est très dur, on n'a pas beaucoup d'amour. Mais peut-être est-ce qu'on a aimé un chien. Et c'est une lumière. On a aimé un chien. Et si on n'a pas beaucoup de lumière, pas beaucoup d'amour, quand même on a eu un amour pour le chien. Et dans le monde spirituel, on peut vivre un amour correspondant qui correspond à ma propre amour. Ça veut dire que on peut, tous les êtres, si on a un couple, tous les couples sont pleins d'amour, de félicité, de béatitude, mais il y a des petits et des grands, mais on reçoit tellement, aussi beaucoup comme on peut prendre. Si on ne peut pas prendre plus, on ne peut plus vivre. Et si on n'a pas beaucoup d'amour soi-même, on ne peut pas vivre beaucoup d'amour. Si on a beaucoup d'amour dans soi-même, on peut vivre beaucoup d'amour dans le monde spirituel. Et c'est le même quand on rentre dans le monde, dans le règne de la sagesse. C'est la plus haute intellectualité, c'est la culmination de l'intelligence. Si, par exemple, il s'agit d'un matérialiste, un scientifique ou un inventeur, c'est très intelligent. Il peut rester assez longtemps dans ce monde. C'est très intéressant pour l'inventeur, le scientifique. On peut avoir des solutions, des problèmes qu'on a cherchés. Mais je crois que vous avez vécu que dans l'école, ou si vous avez un problème dans le soir, c'est pas celui, mais le matin, quand on prend le thé, on a une idée, on a trouvé la solution. Et c'est certes, dans le sommeil, on a passé le monde spirituel, et dans le monde de sagesse, le règne de sagesse, on a vu la solution, et on peut le vivre comme une petite intuition dans le matin. Il a aussi décrit ici, il s'agit par exemple d'un archéologue qui a eu des problèmes, des ruines, il ne peut pas soulever le problème. Mais dans le monde spirituel, on peut, c'est pas des ruines, c'est un château, et on peut voir comme toutes les choses fonctionnent, on peut avoir une explication de tous les trucs qu'on a trouvés, mais ne sait pas qu'est-ce que c'est que ça. Et si cette personne continuait de travailler dans le même domaine, le problème peut se présenter à nouveau, mais cet chercheur peut avoir une intuition et peut trouver la solution dans la vie à se vivre. Il y a aussi plusieurs livres écrits par des hommes qui ont eu des expériences proches de la mort. Il était cliniquement mort, il y a eu un accident, une opération, il a vécu comment, il a vu le propre corps sur l'autoroute ou dans l'hôpital, il a vu ce que le docteur, les infirmières ont fait, on a tout vu, on sait, on a vraiment vécu que le corps c'est seulement un outil, moi, la conscience c'est quelque chose d'autre. Et il y a quelques-uns qui a écrit des livres sur ce thème, et il a aussi écrit le monde des hommes qui s'est suicidé. Il a décrit que ça fonctionne comme ça, les hommes égoïstes, les hommes aimables. Et je crois qu'il était un Américain, il y a peut-être quelqu'un qui a lu le livre, c'est le retour du lendemain ou quelque chose, le retour. Mais il a décrit aussi qu'il a pendant aussi eu une visite touristique dans le monde, dans le règne de sagesse. Parce qu'il a vécu comment on avait travaillé avec les corps, les inventions et les scientifiques. Quand l'intuition est en culmination dans le monde spirituel, dans le monde divin, on peut beaucoup vivre. Mais si on n'a pas de l'intuition sur le plan physique, on ne peut presque rien vivre dans ce monde-là. S'il y a une exposition d'art, il y a beaucoup de peintures, et s'il y a un chien qui court à travers cette exposition. Le chien n'a pas beaucoup compris de cette exposition d'art. Mais si un homme cultivé, on peut se promener pendant des heures, ça veut dire que ça dépend des talents de soi-même, comment on peut jouir ce monde. Et ça veut dire, par exemple, les animaux, les hommes primitifs, ils passent les règnes les plus hauts dans le monde spirituel, comme un chien, dans une exposition de l'art. Mais s'il y a des hommes qui ont assez beaucoup de l'intuition, ils peuvent vivre des choses assez fantastiques dans ce monde, le monde divin. Et on peut tout voir avec l'intuition. On peut pénétrer dans le microcosmos. Le microcosmos. On peut vivre que les organes, les cellules, les électrons. On peut continuer dans l'infiniment. On peut tout vivre dans le... On croit peut-être que ce qui est tout à fait mort, mais peut-être on peut pénétrer et trouver une particule, c'est un électron, Et c'est un planète avec des animaux et des plantes comme vous et nous. Nous ne pouvons pas le croire, mais ça continue. Est-ce que vous avez vu les programmes des fractales? Ce sont des figures mathématiques. Et on rentre dans ce figure, on prend un petit détail, il le grandit, et on entre dans un nouveau détail, il se grandit, et on peut avoir un voyage cosmique infiniment dans le microcosmos. Et on peut le renverser, et on peut voir que la Terre est un être vivant, le Soleil, le système solaire, la galaxie, on peut faire des choses comme ça. Et avec l'intuition, on peut vivre le passé et l'avenir. On peut vivre tout ce qui s'est passé dans l'histoire et on peut aller avant. Mais quand on s'est rassasié, on a beaucoup vécu dans le monde spirituel. On désire de revenir à le monde physique. Pourquoi? Parce qu'il y a des désirs, des vœux qu'on ne peut pas satisfaire dans le monde spirituel. Il y a des choses qu'on peut seulement satisfaire dans le monde physique. On a envie de retourner. C'est aussi le même avec les enfants après la vacance d'été. Il veut voir les amis. Il a un désir de revenir et c'est le même. Et le dernier zone au plan spirituel, c'est quelque chose que Martinus a nommé le règne de béatitude, le règne de félicité. C'est un monde intérieur. Ça veut dire qu'on n'a pas des expériences dans le monde extérieur spirituel, mais on vit dans la mémoire et on peut voir son plan de vie. On peut se souvenir la vie qui s'est passée et plusieurs vies qui s'est passées. Il dit que c'est possible de se souvenir de beaucoup de détails. Peut-être est-ce que vous pouvez vous souvenir que j'ai eu un chandail rouge pendant cette conférence, mais demain vous avez l'oublié. Mais on peut dans le monde spirituel, c'est formidable qu'on peut avoir une vue d'ensemble sur plusieurs vies. Et à ça, on peut dire, j'ai vécu ça et ça et ça. Et on peut faire un plan, qu'est-ce que je veux dans mes vies à venir? Je veux me développer dans cet domaine. Et comme ça, c'est une belle préparation pour revenir dans le monde physique. Et dans le monde spirituel, on peut être préparé pour avoir des souffrances dans le monde physique, parce qu'on apprend beaucoup des souffrances. Quand on a souffert soi-même, on peut sentir avec les autres. Les souffrances donnent de l'humanité, de compassion, de l'amour du prochain. C'est pas en vain qu'on a eu beaucoup de souffrances. Les gens les plus aimables, ce sont des gens qui ont eu le plus de souffrance. Et Martinus dit, si on a envie avec beaucoup, on est handicapé, on a beaucoup de souffrance. Pendant le sommeil, on peut être en contact avec le monde spirituel. Et l'effet, c'est quand on se réveille dans le matin, on n'a plus de force de vivre. On a envie de vivre. On a eu un peu de l'inspiration parce qu'on a en fait eu une visite dans les mondes spirituels. Le temps court et je dois finir. Mais je veux seulement dire que le but de la cosmologie est d'expliquer pour les gens que tout est très bon. Il n'existe pas le diable, il n'y a pas des choses vraiment diaboliques ou ténèbres. C'est nécessaire avec les contrastes pour comment savoir que je suis heureux? Mais si on était malheureux, on peut savoir que je suis heureux. Et si on était très, 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 très malheureux, on peut devenir très, 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 très heureux. Ça veut dire que les contrastes sont nécessaires. Ça veut dire que les contrastes, ce n'est pas le travail du diable. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Et c'est une des choses peut-être le plus important dans toute la cosmologie de Martinus. C'est ce qu'il a expliqué, le sens des souffrances. Il a expliqué le sens des ténèbres. Il a défendu les ténèbres et les souffrances parce qu'il a expliqué que ça peut développer nos sentiments, notre compassion. On peut dire que la compassion, l'amour du prochain, c'est un produit de toutes les souffrances qu'on a eues. Et ça veut dire, si on a fait des choses erronées, on a fait des erreurs, c'est bien qu'on a la chance de le vivre soi-même. parce qu'après ça, on veut cesser de faire les choses comme ça. Comme ça, Martinus a fait une définition. Il existe deux sortes d'expériences. Il y a le bon agréable et le bon désagréable. Ça peut être très, très désagréable. Mais c'est une tout à fait autre manière de vivre la vie. Si on est très malade, on est très souffrante, on a beaucoup de problèmes, c'est bien de comprendre, c'est bon, mais c'est désagréable. Parce que c'est, je suis dans l'école de la vie et le but, c'est que je vais devenir un Christ. C'est bien de pouvoir voir les problèmes, les maladies dans cette lumière. C'est quand même très agréable, mais c'est l'amour déguisé. Il y a, c'est l'amour de Dieu qui travaille avec moi pour me transformer d'un animal égoïste dans un homme achevé. Et ça veut dire, c'est très bien avant de mourir, mais spécialement avant de s'endormir, c'est bien de digérer ce qu'on a vécu et le voir dans sous un point de vue de la cosmologie. On peut comprendre, réellement, on n'a pas des ennemis. Ce sont mes propres énergies. Mes ennemis n'est pas la cause de mes problèmes, c'est moi-même. Et il revient seulement pour me transformer dans un être d'amour. C'est un avantage, ça veut dire mes ennemis ont m'aidé. Et ça veut dire, si on peut voir le problème comme ça, on peut dire merci beaucoup dans son prière, dans le soir. On peut prier pour ses ennemis, on peut dire merci beaucoup, on peut prier à Dieu et dire merci beaucoup. On peut développer une souveraineté mentale en s'étreignant, toujours voir toute la vie sous cet angle. C'est tout ce que j'ai vécu, c'est Dieu qui a parlé à moi pour me transformer. C'était très, très agréable de temps en temps, mais c'est bon. Et si on est en colère, on ne peut pas s'endormir. Si on est amer, jaloux et toutes les choses, on ne peut pas dormir et c'est très détruisant de ne pas pouvoir dormir. Mais c'est très important d'avoir des pensées positives et on peut facilement endormir. Si les pensées, avant de s'endormir, et des pensées de reconnaissance et d'amour, on peut facilement entrer dans le monde spirituel parce qu'on est sur la même longueur d'onde comme le monde spirituel. Et on peut apprendre de mourir dans la façon juste parce que chaque fois qu'on va s'endormir, c'est un entraînement de mourir. Et si on a une habitude d'avoir des pensées positives avant de s'endormir, on peut avoir la même attitude avant la mort. On peut dire merci à Dieu, merci à la vie. Il y a eu des choses qui étaient très désagréables, mais comme Edith Piaf a chanté, je ne regretterai rien. Et on est reconnaissant, on peut dire merci. Et si on a une telle attitude, c'est tellement beau et belle de mourir. Martinus dit, c'est merveilleux de mourir. C'est parce que si le corps est vieux ou si on est malade, c'est une telle libération. Et sur le plan spirituel, on ne pleure pas. Il y a un grand fête. Il y a un fête avec les parents, avec les amis décédés, les anges gardiens, et comme ça. C'est une fête de lumière de mourir. Ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait compris de ce qu'il s'agit sur le plan physique, parce qu'on pleure. Et on ne peut pas aider les décédés en pleurant. C'était mieux de se... de dire merci à tout ce qu'il a fait les décédés. Comme ça, c'est très bien de s'entraîner, de comprendre que tout dans la vie est très bon. Merci pour l'attention.